Notion du programme de philosophie. Notion numéro 2, le bonheur. Nous allons procéder à la correction du texte à trous sur la notion de bonheur qui se trouve aux pages 3 et 4 de votre dossier. Je vous conseille évidemment de tenter de faire l'exercice seul, puis d'écouter cette correction. Le bonheur, c'est une notion énormément discutée et travaillée dans l'histoire de la philosophie, puisque, au premier abord, le bonheur, c'est l'aspiration suprême, c'est le bien suprême que nous recherchons tous, ce que nous voulons absolument réaliser. Et c'est ce qui aimante toutes nos actions, c'est ce pourquoi nous recherchons en fait tous les autres biens. Quand on parle de bonheur, très souvent, on estime que on le possédera quand on aura la richesse, l'amour, la santé, etc., etc. La richesse, l'amour et la santé, ce sont donc des biens, mais des biens qui permettent de réaliser l'idéal suprême de bonheur. C'est pourquoi on va souvent hiérarchiser les biens et on va mettre le bonheur au sommet, en fait, de tous les biens, et tous les autres biens qui permettent de réaliser le bonheur seront des biens subordonnés à ce bien suprême. Alors, concernant cette notion de bonheur, l'étymologie est extrêmement intéressante, c'est pourquoi j'y passe pas mal de temps au début dans le premier paragraphe de votre texte à trous. C'est parti pour la correction de ce premier paragraphe. Du latin bonum augurium, que l'on retrouve aussi en français dans l'expression c'est de bonne augure, l'augurium c'est le présage, la prophétie. Chez les Romains, les augures sont des devins qui lisent la volonté des dieux en interprétant des signes comme le vol des oiseaux. D'ailleurs, le mot sinistre, qui dénote un grand malheur, vient du latin sinister, qui signifie la gauche, car les Romains considéraient que quand les oiseaux volaient vers la gauche, c'était signe de malheur à venir. Étymologiquement donc, le bonheur correspond à la chance ou à la bonne fortune. Fortuna en latin signifie la chance, le destin, que nous accordent les dieux. Je récapitule les trois premiers mots, augure, sinistre et chance. Alors pourquoi cette étymologie est intéressante? C'est parce qu'on voit qu'initialement, le bonheur, ça ne dépend pas de nous. Le bonheur, c'est lié au hasard, au destin, à ce que les dieux ont prévu, donc nous n'en sommes pas maîtres. Cela s'oppose à notre conception moderne qu'on va retrouver dans toutes les théories du développement personnel, selon lesquelles nous pouvons faire en sorte, par un certain nombre de techniques, nous pouvons faire en sorte d'agir sur notre propre bonheur. Alors, ça ne veut pas dire que dans l'histoire de la philosophie, il n'y a pas eu de tentative de définir comment atteindre le bonheur. Au contraire, en fait, il y en a beaucoup eu, et dès l'Antiquité, c'est ce que vous avez vu dans les références travaillées en cours, chez Épicure, chez les Stoïciens, entre autres. Mais cette étymologie met en évidence le fait que nous ne sommes pas entièrement responsables ou entièrement acteur de notre bonheur ou de notre malheur. Celui-ci dépend aussi de nos conditions d'existence, si on ne croit pas au destin comme c'était le cas beaucoup plus dans l'Antiquité. On va tourner la page et passer cette fois-ci aux tentatives de définition, et on va partir de la définition la plus courante, celle qui va correspondre le plus au sens commun, à l'opinion commune, et évidemment en philosophie, on travaillera beaucoup sur la contestation éventuelle de cette première définition. C'est parti pour la correction. Petit 1, définition la plus courante. État de satisfaction complète, caractérisée par sa plénitude et sa stabilité dans le temps. Je récapitule les deux mots, satisfaction et stabilité. La satisfaction, c'est une notion qui est étroitement liée à une autre notion, qui est celle de désir. Et sur cette notion de désir, je vous renvoie à la dernière partie de la notion d'inconscient, à la page 6 ou à la page 7, je ne sais plus. Donc, vous pouvez mettre en pause cet enregistrement et aller revoir ces définitions et ces distinctions entre désir, besoin, contentement et joie qui peuvent être utiles ici quand il s'agit de parler de bonheur. Alors, cette première définition, elle fait du bonheur un état paroxystique. C'est le top du bien-être, du plaisir. C'est le bien suprême. Donc, c'est un état qui est plus durable, plus il y a une plus grande complétude au niveau de la satisfaction que simplement dans l'expérience du plaisir. Donc ici, le bonheur, ce serait une sorte d'hyperbole du plaisir, ce serait un état où tous nos désirs sont satisfaits, où nous sommes pleinement et complètement comblés. J'attire votre attention sur cette expression, être comblé. Être comblé, c'est n'avoir plus aucun vide, aucun manque. Or, le désir, c'est par définition le manque de quelque chose. Donc, être heureux, c'est ne plus rien désirer, être pleinement satisfait. Par conséquent, vous voyez peut-être déjà le problème que pose cette définition, parce que si être heureux, c'est être entièrement comblé de manière durable, eh bien cet état, il semble en fait absolument inaccessible ou irréalisable. Nous sommes sans cesse mus par des désirs qui, nos besoins, par exemple nos besoins vitaux, vont revenir de manière cyclique. On ne peut pas être réellement durablement comblé. Ainsi, le bonheur apparaîtrait comme tout simplement un idéal inaccessible. Nous passerions notre temps à rechercher quelque chose que nous ne pouvons pas obtenir. Donc on voit que cette définition, elle est extrêmement problématique et c'est à partir en tout cas de celle-ci qu'on va pouvoir commencer à réfléchir sur le bonheur et que nous allons pouvoir faire des distinctions conceptuelles et différencier le bonheur de notions qui peuvent être associé et voire substitué à cette notion. Donc c'est l'objet du deuxième paragraphe de distinction conceptuelle. C'est parti pour ces paragraphes de distinction. Petit 2, distinction conceptuelle. Cet état doit être distingué d'autres notions proches, plaisir, joie et contentement. Le plaisir vient du latin placere, qui signifie plaire. C'est une sensation corporelle, exemple le plaisir gustatif, ou un sentiment psychologique, exemple le plaisir de voir un ami, généralement provoqué par la satisfaction d'un besoin ou d'un désir. Il est agréable et facteur d'épanouissement, ce qui conduit souvent l'être humain et les autres animaux à le rechercher. Le plaisir se caractérise par sa brièveté, quelques secondes ou quelques minutes, mais c'est parfois déjà un plaisir que d'anticiper un événement à venir, de même c'est parfois encore un plaisir que de se souvenir d'un plaisir passé. Rôle important de la mémoire et de l'imagination. Je récapitule les mots qui étaient à replacer: corporel, psychologique, satisfaction, brièveté, mémoire et imagination. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur l'importance de l'imagination dans la réflexion philosophique sur le bonheur, notamment chez Kant. Kant fait du bonheur un idéal de l'imagination, c'est-à-dire une idée qui est produite par cette capacité particulière de notre esprit, qui consiste à nous projeter dans le futur ou dans une situation qui n'est pas la réalité effective de l'instant présent. En effet, quand on recherche le bonheur, généralement, on va rechercher une situation, un état où un certain nombre de nos désirs sont réalisés. Nous allons par exemple nous imaginer avoir réussi à entrer dans une carrière qui nous faisait rêver, être astronaute, être médecin, ou avoir accompli, avoir réussi à obtenir une relation amoureuse satisfaisante, avoir réussi à fonder une famille. Bref, on imagine une situation de bonheur qui n'est pas, par définition, la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et cela, pour Kant, pose problème parce que qu'est-ce qui nous assure que ce que nous imaginons être la source de notre bonheur sera effectivement la source de notre bonheur? Peut-être que ce métier rêvé, que cette situation rêvée, au final, ne nous satisfera pas. Ou alors ne nous satisfera pas durablement, puisque on sait déjà, nous avons généralement déjà fait l'expérience d'avoir obtenu des cadeaux ou des choses dont nous rêvions qui finalement nous apportent peut-être sur le moment du plaisir, mais dont on se lasse et ce qui nous pousse à rechercher autre chose. Parce qu'au final, le propre de nos rêves, c'est de nous présenter une situation idéalisée et très souvent, ces situations, nous n'en n'imaginons pas les inconvénients, les mauvais côtés et finalement leur caractère potentiellement insatisfaisant. Parenthèse fermée, on va passer au deuxième élément de distinction conceptuelle, distinguer cette fois-ci le bonheur et la joie. La joie est un sentiment psychologique qui résulte d'un événement espéré, avoir son bac, ou inattendu, gros héritage, que l'on considère comme un bien ayant une valeur supérieure dans l'existence. La joie est donc plus intense, mais souvent aussi plus durable que le simple plaisir. Je récapitule, les trois mots étaient psychologique, intense et durable. Cette distinction ne pose, à mon avis, pas trop de difficultés. On va passer à la distinction suivante, donc le contentement. Enfin, le contentement serait peut-être la notion qui se rapproche le plus de l'idée de bonheur. Il se produit quand l'individu éprouve le sentiment d'une adéquation entre ce qu'il souhaite et ce qui est. Ainsi, on peut être content de soi quand on parvient à réaliser quelque chose, content d'une situation, content pour quelqu'un. Le contentement est souvent moins intense, mais cependant plus durable que le plaisir ou que la joie, justement parce qu'il s'agit d'un affect plus calme qui produit la tranquillité de notre esprit. Je récapitule les trois mots contentement, intense et tranquillité. Je vais insister sur cette notion de tranquillité parce qu'elle est aussi extrêmement importante dans l'histoire de la philosophie. Parce que très tôt, on a eu une opposition entre deux conceptions de façon d'envisager le démonisme. Eudémonisme, ça s'écrit E-U-D-E-M-O-N-I-S-M-E. Le démonisme, c'est grosso modo, la recherche du bonheur. Et donc, notamment dans l'Antiquité, on a vu très vite s'opposer le démonisme qui consistait à faire résider le bonheur dans la recherche des plaisirs. En gros, être heureux, ce serait éprouver le maximum de plaisir. Donc, ce que je vais rechercher, c'est à obtenir du plaisir. Et c'est la quantité de plaisir qui déterminera mon niveau de satisfaction et de bonheur. Et en face, vous avez des conceptions eudémonistes qui font résider le bonheur plutôt dans la tranquillité, dans l'absence de souffrance. On va retrouver cette idée chez les épicuriens ou chez les stoïciens qui ont des recettes un petit peu différentes pour parvenir à cet état de tranquillité et d'absence de souffrance. Pour les stoïciens, il s'agira au contraire de ce qu'on appelle les hédonistes. Les hédonistes, ce sont ceux qui recherchent le maximum de plaisir. Donc pour les stoïciens, au contraire, on va chercher à supprimer au maximum les désirs parce que les désirs, ils sont source de souffrance. Donc finalement, le plus simple pour être heureux et pour ne pas souffrir, pour être dans la tranquillité de l'âme, c'est de supprimer nos désirs. Chez les épicuriens, par contre, ce sera un petit peu différent. Le but est le même, c'est de parvenir à la tranquillité, mais supprimer ses désirs, c'est quelque chose d'assez difficile à envisager et de pas forcément souhaitable. Par contre, on cherchera plutôt à sélectionner les désirs, à satisfaire ceux que nous ne pouvons pas ne pas satisfaire, hein. Il y a des désirs qui sont nécessaires, nos besoins, qui sont nos besoins vitaux sont des désirs qu'on ne peut pas se permettre de supprimer, et aussi de sélectionner ceux qui seront les plus naturels et les plus faciles à satisfaire, sachant que parmi nos désirs, une grande partie sont très fortement liés à la société dans laquelle nous vivons, et sont difficiles, voire impossibles à satisfaire. C'est ce que Épicure appelle les désirs vains. Désirs vains, pourquoi? Eh bien, parce que, on va prendre l'exemple de la richesse, vouloir être riche, c'est généralement un désir qui n'a jamais de fin. Je vais chercher à être riche, je vais peut-être augmenter ma richesse et puis ce sera jamais assez, je vais toujours chercher à être riche et toujours chercher à être plus riche. Donc, je ne serai jamais satisfait alors que si j'arrive à me contenter tout simplement de ce que j'ai, eh bien, je ne souffrirai pas de ce désir permanent d'être plus riche. Voilà donc pour ces connaissances de base sur la notion de bonheur. Évidemment, tous les problèmes philosophiques qui ont été soulevés ici seront abordés en cours avec le travail sur les références et sur les textes philosophiques.